Et je voudrais simplement partager avec vous cinq vérités bibliques sur la famille. Et vous allez voir que chaque lecture qui ont été faites ici rentre dans ce que nous allons partager. Alors, premièrement, nous sommes tous concernés par la question de la famille. Que nous soyons mariés, que nous soyons célibataires, que nous soyons veufs, que nous soyons divorcés, que nous soyons en fréquentation, quelle que soit notre situation, nous sommes tous concernés par ce sujet. Que nous soyons jeunes ou que nous soyons vieux, nous sommes concernés par la question de la famille. Parce que, premièrement, nous sommes tous le fruit d'une famille. Nous sommes tous le fruit d'une famille. Alors, certains connaissent bien les membres de leur famille, d'autres ne les connaissent pas. Certains sont en très bonne relation avec les membres de leur famille, d'autres ne le sont pas, mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous issus d'une famille ou nous sommes tous intégrés dans une famille, d'une façon ou d'une autre. De plus, si nous sommes ici aujourd'hui, comme nous l'avons entendu dans un des témoignages, nous faisons partie d'une famille spirituelle. Et donc, lorsque l'on parle de famille, personne ne devrait se sentir exclu. Personne ne devrait se dire, moi, ça ne me concerne pas ou ça ne me concerne que de loin. Chacun de nous, nous sommes concernés par la question de la famille. Alors, cinq vérités bibliques sur la famille. Premièrement, et c'est une vérité qui nous a été déjà apportée par Valentin dans l'introduction, premièrement, la famille est une institution divine. La famille tire son origine en Dieu lui-même. La famille n'est pas constituée pour les besoins économiques du monde. Ce n'est pas non plus une construction que les hommes ont faite avec le temps. La famille est une construction intentionnelle de Dieu. Et on le lit dans Éphésiens 3, 14 à 15, où il est dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Alors c'est intéressant de voir qu'au verset 15, il dit « duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre ». Alors on aurait envie de catégoriser, de dire « mais non, enfin, il doit y avoir une erreur dans le verset ». Eh bien si, toute famille tire son nom de Dieu lui-même, parce que c'est Dieu lui-même qui a créé la famille et c'est Dieu lui-même qui a créé toutes ces générations ou ce fonctionnement par génération qui fait que des générations se succèdent les unes après les autres. Dieu est la source de toutes les familles charnelles qu'il y a sur terre, puisqu'il est celui qui a créé Adam à son image et qui leur a dit « soyez féconds, multipliez-vous ». La famille est une institution qui vient directement de Dieu. Et c'est pour cela que l'on en parle comme une institution divine. C'est Dieu qui l'a instituée. Alors, quand on dit que la famille est une institution divine, cela a une conséquence première que tous nous saisissons bien, c'est que si nous comprenons cela et si nous acceptons cela, eh bien Dieu devrait être celui qui nous inspire le plus dans la façon de penser la famille. Si vous avez lu les programmes électoraux qui était donné pour les élections d'aujourd'hui, beaucoup de programmes contiennent des points sur la famille. Alors sur la famille nucléaire, sur la famille plus large, mais il y a des questions qui sont liées à la famille. Alors si on prend l'exemple de certains partis qui proposaient de supprimer les droits de succession, ça concerne la famille. Si on prend l'exemple de partis qui voulaient permettre la gratuité progressive des crèches, ça concerne la famille. Toutes ces questions concernent la famille. Alors, au sujet de la famille, tout le monde a quelque chose à dire. Personne n'a rien à dire sur la famille, parce qu'on a tous été membres d'une famille, on a tous observé des familles, on a tous avoir des familles. Mais qui est celui qui a la chose la plus juste à dire au sujet de la famille, si ce n'est celui qui l'a créée, qui l'a instituée, qui l'a pensée? Dieu est celui qui peut nous dire au mieux ce qui est le bon pour la famille. Il sait ce qui est bon pour la famille et il nous donne des instructions par rapport à la famille. Il est essentiel que nous puissions nous demander, mais finalement, est-ce que je suis conscient des instructions de Dieu sur la famille? Alors, dans un sondage comme ça, vous autres qui êtes des beaux animaux de carapace, vous allez dire, ben oui, ben évidemment. En réalité, La Bible est remplie d'instructions qui concernent la famille. Alors, on en a lu quelques-unes dans les textes qu'on a lus. Mais la majorité du temps, premièrement, les hommes, les femmes de notre terre se fichent de savoir ce que Dieu en dit. Mais il arrive aussi que nous-mêmes, les croyants, nous en arrivions à construire notre vision de la famille, justement, sur nos conceptions, sur ce que nous propose le monde. Nous avons tout intérêt, si nous croyons que cette parole est inspirée de Dieu, à l'utiliser pour comprendre comment doit vivre une famille. Il arrive très souvent que nous nous présentons devant Dieu en lui disant toute notre colère. Ça arrive qu'on dise: Seigneur, c'est pas normal, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais Dieu est un Dieu de principe. Et bien souvent, nous nous présentons devant Dieu en lui reprochant des choses sans nous être mis à l'écoute de ses principes. Quels sont tes principes, Seigneur, pour ma famille? Quels sont tes principes, Seigneur, pour ma façon de vivre ma relation avec mon enfant, avec mon mari, avec ma femme, avec mes grands-parents? Qu'est-ce que tu as à me dire sur ce sujet? Dieu est celui qui sait le mieux ce qu'il y a à dire sur la famille. Alors aujourd'hui, il y a tout un mouvement que vous connaissez certainement, qui est un mouvement qui, en fait, vous connaissez certainement cette expression d'un poète qui avait écrit, d'ailleurs certains ont mis ça en épitaphe sur leur famille, je vous hais. Famille, je vous hais. Et donc il y a un mouvement actuellement qui essaye de remettre en question l'existence de la famille, de remettre en question le sens de la famille, ou de montrer quelque part tout ce qu'il y a de négatif dans la famille. On voudrait que chacun puisse s'autodéfinir lui-même, que chacun puisse vivre lui-même sans avoir à vivre dans des attachements avec les uns et les autres. Et malheureusement, en faisant cela, on s'éloigne beaucoup de la pensée de Dieu. Alors, premièrement, est-ce que nous connaissons les principes de Dieu pour la famille et est-ce que nous les mettons en pratique? Deuxièmement, la famille a un fondement. Et le fondement de la famille, c'est ce qu'on appelle le mariage. Alors, on a lu le texte de Genèse où Dieu crée les cieux, la terre, les luminaires, où Dieu ordonne la création des animaux. Et vous savez qu'après ce texte au sujet de la création qui concerne les animaux, Dieu va créer une institution qui est spécifique aux humains. Alors on a lu ce qui concerne les animaux, mais si on lit le chapitre d'après, on a la création de Dieu qui est spécifique aux humains. Et notamment, la Bible dit dans Genèse 2, 18 à 24, l'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et au verset 21, il est dit: Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Deuxièmement, nous voyons que lorsque Dieu a voulu instituer la famille, il l'a fait par un biais particulier qu'on appelle le couple. Et c'est Dieu lui-même, en fait, qui constate le besoin que les êtres humains ont d'être accompagnés. Il constate que l'être humain ne peut pas pleinement se réaliser dans sa solitude qui le convoque à être seul avec lui-même, seul face à lui-même. Et donc Dieu crée pour l'être humain cette institution qui lui permet justement de vivre avec un vis-à-vis, de vivre avec quelqu'un en face de lui. Dieu crée le mariage et Dieu lui donne un but. Premier but que l'on lit dans le texte, qui n'est pas le seul but, c'est que Dieu choisit le mariage comme un moyen pour que la race humaine puisse se poursuivre. Dieu a choisi le mariage comme un moyen par lequel la race humaine va pouvoir se poursuivre. Et dans le texte de Genèse 1, dans la suite de ce qui a été lu, il est dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc Dieu choisit le mariage comme étant le moyen par lequel il va faire naître encore des êtres humains. Deuxième but que Dieu donne au mariage, c'est le moyen au travers duquel l'homme, l'humain, peut faire l'expérience du partage, l'expérience de l'échange, l'expérience de l'intimité, l'expérience de la relation, l'expérience de la communion intime. On dit parfois que le mariage est le don de Dieu pour adoucir les douleurs de la vie. Alors parfois, c'est pour les compliquer. Mais dans le mariage, Dieu donne à l'homme, à la femme, un soutien, un ami, un partenaire de vie, quelqu'un avec qui échanger, quelqu'un avec qui construire, quelqu'un avec qui regarder dans le futur. Et Dieu donne à l'homme, à la femme, un partenaire, et il leur donne une mission, c'est d'en arriver à pouvoir faire un, de pouvoir en arriver à partager une intimité, une communion de vie l'un avec l'autre. Dieu a donné dans le mariage un cadeau à l'être humain. Alors les cadeaux de Dieu sont toujours des cadeaux qui peuvent se retourner contre nous, toujours. Mais ça n'en est pas moins un cadeau. Si on vous offre un petit couteau pour couper le rôti, ça reste un cadeau. Si vous décidez de tuer quelqu'un avec, voilà, ça c'est pas le rôle du cadeau. Dieu fait cadeau à l'homme du mariage. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une société où il faut que nous puissions réaffirmer certaines choses. Nous sommes dans une société qui nous promet, qui nous propose bien mieux que le mariage. Le trouple. Le trouple, c'est faire couple à trois. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un ici. Des couples de trois, on se dit finalement à deux, c'est pas marrant, c'est un peu pénible. Faisons des couples de trois, ça ira mieux et là on aura une belle communion. On nous propose, peut-être mieux encore, le couple libre. Alors le couple libre, c'est important, il faut bien comprendre ce que c'est, parce que sinon vous allez vous tromper. Un couple libre, ça veut dire qu'il y a un couple central, mais qu'en dehors du couple central, chacun est libre d'aller avec qui il veut. On nous propose le polyamour. Le polyamour, c'est les gens qui disent « Mais moi, je ne sais pas faire autrement, je tombe amoureux de plusieurs personnes en même temps. » Et donc, voilà, j'ai des amours comme ça, en passant, et puis je ressens quelque chose pour quelqu'un, j'aime sa sensibilité, je construis quelque chose avec elle, avec lui, et puis je construis ma vie comme ça. On nous propose tant et tant de choses. Alors ici, moins, mais dans certains pays du monde, encore, on valorise la polygamie. On nous propose plein de choses qui s'éloignent du modèle de Dieu. Et nous devons aujourd'hui réaffirmer que le plan de Dieu concerne une chose, c'est le mariage hétérosexuel, monogame et exclusif. Le mariage hétérosexuel, monogame et exclusif. Dieu a choisi que le mariage soit constitué d'un homme, d'une femme qui, pour leur vie, choisissent d'être ensemble et uniquement ensemble, et qui construisent leur vie justement sur cette unité de vie que Dieu leur accorde de vivre. Dieu conçoit le mariage comme une union pour la vie et comme une union exclusive. Le mariage, dit la Bible, est une institution sainte. C'est Hébreux 13, verset 4. Important de connaître ce verset, n'est-ce pas ? C'est un principe de Dieu pour la famille. Hébreux 13, verset 4, « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Le mariage est une institution sainte, créée par Dieu de façon sainte. Alors la Bible nous montre que le mariage est la vocation de la majorité des êtres humains. La majorité des êtres humains qui sont sur la terre sont appelés un jour à se marier, parce que, comme dit le texte, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cependant, la Bible nous montre aussi qu'il y a tout un ensemble de personnes qui, au cours de leur vie, n'auront pas à se marier, pour différentes raisons. Alors, une première raison, c'est des personnes qui, à cause du, chemin de la vie, ben, ne vont pas forcément rencontrer une personne avec qui ils vont construire leur vie et qui vont, par ce fait-là, rester célibataires durant leur vie. D'autres personnes vont rester célibataires par choix personnel, pour des raisons qui leur appartiennent, et ils vont continuer comme ça. Et enfin, d'autres personnes, nous dit la Bible, vont avoir comme vocation de rester célibataires durant leur vie pour le royaume de Dieu. Et Jésus a parlé de ça. C'est intéressant de se dire que Jésus déjà avait enseigné le peuple là-dessus, c'est qu'un certain nombre de personnes pour le royaume de Dieu auraient à rester célibataires pour pouvoir servir Dieu sans distraction et sans encombre, sans devoir se préoccuper de nourrir une famille, de prendre soin d'un mari, de prendre soin d'une épouse. Et ce sont donc des gens qui sont appelés comme ça à vivre célibataires durant leur vie. Et cela fait partie du plan de Dieu. Donc dans le plan de Dieu, il y a deux vocations. La première vocation, c'est le mariage. La deuxième vocation, c'est le célibat. La Bible nous montre que la vocation généralisée du monde, c'est le mariage, mais qu'il y a un certain nombre de personnes qui auront une vocation spécifique pour le célibat. Alors le célibat est une vocation, mais le célibat aussi peut devenir simplement une situation de vie. Alors le célibat peut être une situation passagère de vie, lorsqu'une personne n'a pas encore rencontré son partenaire, mais le célibat peut être aussi une période de vie lorsque on fait face au veuvage, par exemple, lorsque notre partenaire décède, ou lorsque nous avons, pour différentes raisons, à nous séparer de notre conjoint. Mais nous devons donc savoir que Dieu a un plan tant pour les mariés que pour les célibataires, et que les mariés et les célibataires, dans leur état, sont appelés à glorifier Dieu. Dieu nous appelle, quel que soit notre état, à chercher à le glorifier, à chercher à mener une vie qui élève et qui glorifie son saint nom. Il y a des modes de glorification de Dieu qui sont liés à notre mariage. On peut glorifier Dieu en servant Dieu en famille, on peut glorifier Dieu en transmettant la foi à ses enfants, mais on peut aussi servir et glorifier Dieu dans son célibat, en faisant du bien à tant et tant de personnes, en s'engageant dans telle ou telle façon, en accordant un soin aux gens qui sont autour de nous. Quel que soit notre état de vie et quel que soit là où nous en sommes, Dieu a un plan précis pour nous. Et nous devons, les uns et les autres, nous saisir de ce plan de Dieu en se disant, Seigneur, dans ma situation actuelle de vie, comment est-ce que je peux le mieux te glorifier? Dans ce mariage, dans cette alliance que j'ai au bout du doigt, comment est-ce que je peux le mieux te glorifier? Ou alors, à cette alliance que je n'ai pas au bout du doigt, comment est-ce que je peux le mieux te glorifier? Cela aussi a une conséquence importante, c'est que l'Église doit réserver du temps à prier. À prier pour les célibataires, pour qu'ils puissent se réjouir en Dieu, à prier pour les mariés, pour qu'ils puissent vivre un mariage béni. Nous avons à prier pour les jeunes, afin qu'ils puissent rencontrer la bonne personne pour leur vie. Et ça commence très très tôt, n'est-ce pas? C'est une erreur de se dire, on va attendre qu'il ait 18 ans pour commencer à prier. On peut commencer même à prier pour un enfant qui est dans le ventre de sa mère, de dire « Seigneur, dès maintenant, je te prie que tu conduises son choix. Je te prie que tu l'inspires, je te prie que tu le conduises. » Nous devons prier pour que ceux qui ont à choisir un partenaire puissent le trouver et que Dieu puisse éloigner un certain nombre de pièges. L'Église doit prier et se préoccuper des jeunes pour que les jeunes puissent éviter les pièges qui sont liés à la vie amoureuse, et ces pièges sont nombreux aujourd'hui. L'Église doit prier, et si vous êtes parents, vous devez supplier Dieu pour que Dieu puisse aider les jeunes. Et on était encore en discussion hier ou avant-hier sur toutes ces terribles choses devant lesquelles nous sommes confrontés. Alors, on a effectivement essayer d'avoir un discours un peu équilibré sur l'Evras, mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas dans les écoles que l'on va apprendre la parole de Dieu aux enfants. Et si nous sommes tièdes comme Église, si nous manquons de courage comme Église, nous allons perdre même les enfants les plus attachés à Dieu, même parfois des enfants qui ont 10, 12, 15 ans et qui déjà s'attachent à Dieu, mais qui vont entendre des choses qui vont complètement les perturber, qui vont complètement leur faire perdre le chemin. Donc nous devons prier de tout cœur pour que Dieu vienne au secours des jeunes dans nos églises. Troisièmement, Dieu se révèle comme un Dieu de génération en génération. Dieu est un Dieu de génération. Et comme on l'a lu dans le texte que nous ont lu Rose, Sacha et Priscilla, on voit là trois générations qui sont rassemblées. Nous avons le grand-père, nous avons le fils et nous avons les petits-enfants qui sont là et qui reçoivent, les petits-enfants reçoivent la bénédiction du grand-père en présence de Dieu. Dieu est un Dieu qui se révèle comme un Dieu de génération. Vous connaissez le texte où Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu veut se faire connaître également par les générations. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la famille est aussi le lieu où on peut avoir l'occasion de découvrir qui est Dieu. On peut avoir à découvrir qui est Dieu. Alors, il est certain qu'il est important que chacun, un jour, fasse un choix. Chacun doit choisir d'appartenir à Jésus-Christ. Mais sur quelle base est-ce qu'on fait ce choix ? Sur quelle base est-ce qu'on va choisir quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler ? Sur quelle base est-ce qu'on va choisir quelqu'un dont on n'a jamais vu les résultats dans la vie ? Dieu est un Dieu qui veut se faire connaître dans la famille. C'est dans la famille que l'on doit entendre parler de Dieu, que l'on doit voir le modèle de qui est Dieu, que l'on doit se présenter dans la présence de Dieu. Et c'est dans la famille qu'on doit avoir l'occasion d'entendre un message qui nous permettra un jour de faire un choix et de dire « Ce Dieu que j'ai vu, je veux le suivre. Ce Dieu que j'ai vu dans mon parent, je veux le suivre. » L'exemple que donnent les parents, les paroles que donnent les parents sont des moyens, des canaux de Dieu pour que des personnes deviennent des authentiques enfants de Dieu. Alors effectivement, on n'assistera pas à des conversions miraculeuses, à des gens qui tombent par terre un jour parce qu'ils ont découvert la lumière, puisqu'ils entendent parler de la lumière depuis qu'ils sont nés, mais ils auront fait un choix réel de suivre leur Sauveur. Et nous devons continuer à prier pour que Dieu se fasse connaître de génération en génération. Quatrièmement, la famille est un lieu de souffrance et de déchirure. Vous avez entendu cette citation, « Famille, je vous hais ». Quand on dit « famille, je vous hais », évidemment, c'est qu'on a eu des expériences difficiles avec la famille. C'est intéressant parce que c'est une vérité biblique que la famille est un lieu de souffrance. C'est une vérité biblique. Pourquoi ? Parce que la Bible nous le montre de Genèse à Apocalypse. Des familles qui souffrent. La famille, c'est le plan de Dieu, mais c'est aussi un lieu qui est atteint par le péché. Et on voit, n'est-ce pas, dans la Bible est éloquente sur toutes les souffrances qu'il y a dans la famille. On commence avec Caïn et Abel, le meurtre d'un frère pour de la jalousie. On a l'explication du fait que Ésaü et sa femme avaient beaucoup de problèmes avec leur belle-fille. Nous avons dans la Bible des cas de violence. Nous avons dans la Bible des cas d'inceste, des cas de combat pour l'héritage. Et nous n'avons pas besoin de la Bible, mais nous voyons tous les jours tout un ensemble de gens qui souffrent à cause de leur famille. Je connaissais une jeune fille qui avait son père qui était en prison parce que son père avait tué sa mère. La famille est un lieu de souffrance, c'est un lieu de déchirure, c'est un lieu parfois où nous allons porter les pires cicatrices de nos vies, la famille. C'est un lieu de souffrance, mais c'est aussi un lieu où Dieu peut faire grâce. Dieu peut aussi accorder restauration, guérison aux familles blessées, aux familles qui souffrent, afin qu'elles puissent recevoir justement une restauration. Alors parfois, on vivra toute sa vie avec les séquelles d'avoir vécu dans une famille difficile. Et parfois, Dieu accordera aussi sa grâce pour que nous puissions vivre une restauration. Comme Eric en a parlé, nous pouvons parfois avoir la grâce de faire une démarche de pardon vis-à-vis de membres de nos familles, d'explication, de discussion, pour pouvoir passer à autre chose. Et puis cinquièmement, en dépit de tout ça, en dépit de tout ce que nous venons de dire, la famille a pour vocation de refléter la gloire de Dieu. La famille est un lieu où les êtres humains peuvent grandir. La famille est un lieu où les êtres humains peuvent faire l'expérience de la relation, de la communion avec l'autre. C'est dans la famille qu'on peut, c'est pas toujours le cas, mais qu'on peut découvrir le sens du mot amour. C'est dans la famille que l'on peut apprendre à connaître Dieu, à connaître sa volonté. Et en tout cela, la famille peut être le lieu par excellence où nous allons refléter la gloire de Dieu. La famille n'est pas juste un endroit pour satisfaire nos envies, nos rêves, mais c'est un lieu où nous pouvons manifester la gloire et l'amour de Dieu. Et nous avons cet enseignement d'Éphésiens concernant le couple qui nous dit que le couple est censé représenter la relation entre Christ et son Église. L'amour entre Christ et son Église. La famille peut être un lieu qui reflète la gloire de Dieu. La famille peut être le lieu où l'on voit se révéler l'amour qui unit le Père et le Fils dans la Trinité. Le Père aime le Fils aime le Père, et il y a ce souffle d'amour entre le Père et le Fils qui est le Saint-Esprit. La famille peut être le lieu qui manifeste cet amour, cette communion, cette grâce de Dieu. Alors, c'est certes pas facile, c'est certes pas automatique, mais c'est quelque chose que nous pouvons, par la grâce de Dieu, espérer. Nous pouvons prier pour cela.